Ce matin, nous poursuivons notre série sur le prophète Élie que nous avons commencé il y a 3 semaines. Nous avons vu tout d'abord la place importante occupée par Élie dans toute l'Écriture. Puis nous nous sommes attachés à essayer de comprendre le contexte dans lequel Élie a vécu, à savoir celui du règne d'Akab et de Jézabel, dans le royaume du Nord, c'est-à-dire après le schisme, donc dans les années 874 à 853 avant Jésus-Christ. Nous avons ensuite pris le temps de décrire le règne d'Akab, qui à ce stade de l'histoire d'Israël était le pire, dit le texte biblique. Le pire car par son mariage avec Jézabel, princesse phénicienne, princesse païenne, Akab va introduire et généraliser le culte de Baal dans tout le royaume. Et c'est ainsi que nous lisons dans le livre des Rois, au chapitre 16, le premier livre des Rois, versets 30 à 33, « Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. » Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Akab fit aussi le poteau d'Achéra, et Akab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Pour confronter Akab et Jézabel et pour lutter contre le culte idolâtre de Baal, Dieu va donc susciter un prophète, le prophète Élie. Et nous arrivons au début du chapitre 17, du premier livre des Rois, où Élie va apparaître pour la première fois et où il apparaît en se présentant à la cour du roi, en se présentant devant le roi Akab. Et c'est ce passage que nous allons considérer ce matin. Je vous invite à lire, à suivre, soit sur l'écran ou dans vos Bibles, 1 Rois 17, versets 1 à 7. 1 Rois 17, versets 1 à 7. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et agit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Devant Akab, notre deuxième point, Élie se présente devant le roi Akab. Il ne vient pas pour le saluer, il ne vient pas pour lui rendre hommage, il vient pour annoncer un jugement de la part de Dieu. De quel jugement parlons-nous? Verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Notons tout d'abord que la sécheresse était un des jugements que Dieu avait promis à son peuple si celui-ci se tournerait ou se tournait vers les idoles. Prenons l'exemple du texte dans le Deutéronome, chapitre 11, versets 16 et 17, où nous lisons « Gardez-vous de laisser votre cœur être séduit en vous écartant, en rendant un culte à d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait pas de pluie. Le sol ne donnerait plus ses productions et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. » L'annonce faite par Élie au roi Achab est donc clairement l'annonce d'un jugement de Dieu. Un jugement de Dieu qui sonne comme une provocation, un défi lancé à la puissance du dieu Baal. En effet, Baal était le dieu de la pluie, le dieu de la pluie et de la fertilité. Annoncer une sécheresse, c'était empiéter sur son terrain de compétence, c'était le provoquer, lui marcher sur les pieds, c'était le mettre au défi de montrer sa puissance et d'empêcher la sécheresse annoncée. La sécheresse annoncée est donc clairement un jugement de Dieu sur l'idolâtrie du roi et de son peuple. C'est un défi lancé à la puissance du dieu Baal, et en même temps, c'est un appel à reconnaître que l'Éternel est le seul vrai dieu de la pluie et de la fertilité. Au final, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la puissance d'Achab ou de Jézabel ou d'Élie, mais celle de l'Éternel et celle du dieu Baal. Une dernière chose dans ce premier point, elle concerne ce que l'apôtre Jacques va dire dans le Nouveau Testament d'Élie en lien avec notre passage. Et nous allons lire quelques versets dans Jacques au chapitre 5, les versets 16 à 18. Voici ce que Jacques dit. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Ce texte nous fait comprendre que c'est suite à la prière d'Élie que le ciel va se fermer, que Dieu va fermer le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu se serait-il rangé à l'avis d'Élie ? Non. Nous venons de voir que la sécheresse était promise au peuple idolâtre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu s'est servi de la prière d'Élie pour accomplir sa volonté, et pas l'inverse. Nous parlons ici d'une dimension de la prière qui nous dépasse. Parce que oui, parfois, Dieu choisit d'accomplir sa volonté en exaucant nos prières. Et c'est ainsi que nous pouvons être conduits les uns et les autres à prier, conduits par l'Esprit, à prier dans un certain sens dont Dieu veut se servir. Ce ne sont pas juste des mots quand nous disons que Dieu se sert de nous. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a choisi d'accomplir une partie de sa volonté en s'appuyant sur l'exaucement de nos prières. Et cela nous rappelle combien la prière est importante et qu'elle est tellement plus que simplement demander à Dieu nos besoins. Élie a prié, dit Jacques, prier pour qu'il ne pleuve pas. Notons pour être tout à fait précis que le texte des rois ne précise pas les choses ainsi. Il n'est dit nulle part dans notre texte qu'Élie a prié pour que vienne la sécheresse. Par contre, il est dit un petit peu plus loin, au chapitre 18, verset 42, qu'il a prié pour que la pluie revienne. Il est donc plutôt raisonnable, je pense, d'estimer que c'est aussi ce qui s'est passé au début, comme le dit Jacques, même si le texte des rois est silencieux à ce sujet. Une dernière chose concernant la prière d'Élie. C'est à l'évidence une prière d'une grande efficacité. Il ne pleuvra pas pendant 3 ans et 6 mois. C'est pas rien. D'ailleurs, Jacques précise dans son texte au verset 16 que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Il y aurait des choses à dire, mais je passe. Par contre, j'aimerais souligner ce qu'il dit dans le verset suivant, quand il dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Le résultat de la prière d'Élie est incroyable. Une sécheresse de 3 ans et 6 mois. Mais Élie n'est pas un surhomme. Ce n'est pas Superman. C'est simplement vous et moi. C'est un homme comme chacun de nous, de la même nature que nous, dit le texte, fait dans la même pâte que nous. Et la seule différence, sans doute, si l'on veut analyser la prière d'Élie pour ce qu'on peut en comprendre, concerne l'intensité de sa prière. C'est en tout cas là-dessus que Jacques va mettre l'accent. Et il dit qu'Élie pria avec instance, avec insistance, avec conviction. Et littéralement, dans le grec, c'est une formule spéciale, particulière, une façon sémite de dire les choses, il est écrit littéralement « il pria en prière ». Il pria en prière. Voilà la façon de dire l'intensité. Par exemple, quand Jésus dit « j'ai vivement désiré manger », quand il parle du dernier repas à ses disciples, ce repas avec vous, c'est « j'ai désiré avec désir ». On double la chose, on la répète, pour dire l'intensité. Élie pria en prière. Et cette intensité nous dit toute l'implication d'Élie dans sa prière. Et cela nous rappelle qu'il peut nous arriver de ne pas prier dans nos prières. Nous fermons les yeux peut-être, nous joignons les mains peut-être, nous nous mettons peut-être à part, nous disons des mots, nous répétons peut-être des rengaines, nous pensons prier mais notre cœur est ailleurs. Prions-nous vraiment ? Celui d'Élie, le cœur, était entièrement tourné vers le Seigneur et vers son service. Il pria en prière. Il pria avec instance. Puissions-nous aussi toujours prier de la sorte, de tout notre cœur, afin que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Revenons à notre texte des rois. Après avoir envoyé Élie devant Akab, Dieu va l'envoyer maintenant au torrent de Kérit. C'est notre troisième point. Et j'aimerais relire ces versets avant d'en faire quelques commentaires. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. » Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Pourquoi Dieu envoie-t-il Élie au bord du torrent ? Est-ce qu'Élie n'aurait pas été plus utile à la cour du roi, comme un aiguillon constant pour rappeler à Akab ce qu'il devait faire ? N'aurait-il pas mieux valu qu'il parcourt les rues de Samarie en demandant au peuple de se repentir de leurs péchés et de revenir à l'Éternel ? Notons premièrement que cet envoi au bord du torrent de Kérit n'est pas une option pour Élie, mais un ordre de Dieu. Pars d'ici, dirige-toi et cache-toi près du torrent de Kérit. Notons ensuite qu'il y a une raison principale dans le texte, et j'en ajouterai une deuxième, deux raisons principales au moins derrière cet ordre de Dieu. Et la première, elle est clairement énoncée dans notre texte. Pars d'ici et dirige-toi vers l'est et cache-toi. Cache-toi. Dieu demande à Élie de se cacher. Pourquoi ? Mais parce que sa vie est en danger. Sa vie est maintenant en danger. Bien évidemment, Dieu a le pouvoir, avait le pouvoir, de protéger son prophète, même s'il restait à Samarie. Mais il a jugé bon de le mettre à l'abri, de l'envoyer se cacher, parce que le danger est réel. Et en effet, nous apprenons un petit peu plus loin dans le texte qu'Akab va faire rechercher Élie dans tout le royaume, et même au-delà du royaume. 1 roi 18, versets 7 à 12. On reparlera de Abdias une autre fois. Comme Abdias était en chemin, voici qu'Élie le rencontra. Abdias le reconnut, tomba la face contre terre et dit : Est-ce toi, mon seigneur Élie ? Il lui répondit : C'est moi. Va dire à ton seigneur, c'est-à-dire Akab, voici Élie. Alors Abdias dit : Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab pour me faire mourir ? L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon Seigneur ne t'ait envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'y étais point, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. J'irai faire mon rapport à Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. À l'évidence, la tête d'Élie était mise à prix. Si on était dans un western, alors il y aurait des affiches partout, hein, « Most wanted, recherché, Élie, mort ou vif ». Est-il exagéré de penser cela, que la tête d'Élie était mise à prix, que sa vie était en danger ? Si vous hésitez encore, alors lisons encore quelques versets et où il nous est dit le traitement que Jézabel réservait aux prophètes de l'Éternel. C'est le début du chapitre 18. La famine était intense à Samarie. Akab fit appeler Abdias, préposé à sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Élie doit se cacher pour préserver sa vie. Jézabel se serait sans doute délectée de le faire mettre à mort. Mais au-delà de cette raison explicite dans le texte, j'aimerais maintenant nous proposer de considérer cette retraite au torrent de Kérit comme un lieu, comme un temps de formation pour Élie. Il me semble évident que les mois passés cachés au pied du torrent ne sont pas des mois perdus pour Élie au service de Dieu, mais un temps pendant lequel Dieu va préparer son serviteur pour la suite de la mission. Ce temps qu'on peut considérer comme un temps de mise à l'écart, un temps d'inactivité, sera pour Élie, je le pense, un temps d'apprentissage de la confiance en Dieu. Un temps peut-être pour abandonner certaines choses et s'attacher à d'autres. Un temps pendant lequel Dieu va modeler son prophète. Un temps qui, à n'en pas douter, va préparer Élie pour la suite. Et il en aura bien besoin. Et certains font remarquer ici, à juste titre ou pas, qu'au début de l'histoire, nous l'avons lu au verset 1, Élie est simplement présenté comme Élie le Tishbite. Et puis quand on arrive à la fin de cette période de sécheresse, il va être identifié par la veuve de Sarepta, on en parlera la prochaine fois, comme homme de Dieu. Alors est-ce que c'est là l'indication d'un changement, d'une transformation ? Est-ce que c'est là l'indication que ce temps a été un temps de formation à l'école du torrent et puis ensuite à Sarepta ? On ne peut pas l'affirmer, mais une chose est sûre, c'est que ce temps au torrent de Kérit ne sera pas du temps perdu. Soulignons qu'Élie va être nourri directement par Dieu. Le parallèle est évident avec Israël dans le désert. Et alors que la sécheresse sévit partout dans le pays, Élie a à manger matin et soir et de l'eau fraîche à boire en abondance. En abondance jusqu'au jour où l'eau du torrent commence à couler un peu moins fort. Et chaque jour, Élie constate qu'il y a un peu moins d'eau qui coule, le débit est moins important, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un petit filet d'eau. Un petit filet d'eau qui finit par disparaître. La terre reste humide pendant quelques jours et puis finit par complètement s'assécher et craqueler. Le torrent de Kérit est à sec. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Qu'a bien pu penser Élie à ce moment-là ? C'est Dieu qui l'a envoyé là, n'est-ce pas ? S'est-il senti abandonné par Dieu ? A-t-il pensé qu'après l'avoir béni, Dieu le maudissait ? L'abandonnait ? Le texte ne dit rien de ce que Élie a pensé ou ressenti. Par contre, cette évolution dans le récit nous amène à nous poser certaines questions, des questions importantes. Est-ce que Dieu est bon uniquement quand tout va bien dans ma vie ? Est-ce que les torrents à sec dans ma vie disent quelque chose ou pas de la bonté de Dieu ? Et on peut même aller plus loin et se demander si les sécheresses dans nos vies disent quelque chose ou pas de la désapprobation de Dieu ? Il est tentant et faussement sécurisant, je pense, de penser que la bonté de Dieu se traduit toujours et uniquement par la bénédiction. Par l'abondance, par la santé, par un compte en banque bien rempli, par une vie solo ou maritale épanouie, par une situation professionnelle stable, par toutes les bonnes choses de la vie. Est-ce qu'il est juste de penser ainsi ? Est-ce que Dieu cesse d'être bon quand nous sommes dans le dur, dans la difficulté ? Est-ce que Dieu a cessé d'être bon pour Élie quand le torrent fut à sec ? En réalité, Dieu ne change pas au gré de nos circonstances. Si c'était le cas, ce serait une girouette. La réalité, c'est que même dans l'épreuve que Dieu permet, qui est parfois inhérente à notre condition humaine, pécheresse que nous induisons nous-mêmes, Dieu continue malgré tout à prendre soin de ses enfants. Son engagement à le faire, sa bonté, sa fidélité ne dépendent pas de nos circonstances. Alors oui, bien sûr, comme vous, je constate qu'il est beaucoup plus facile de voir la bénédiction de Dieu dans ce qui est positif dans ma vie, dans nos vies. Mais la parole de Dieu nous invite à croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Et dans ce toute chose, parfois Dieu donne et puis parfois Dieu reprend. Mais nos ruisseaux à sec ne sont jamais les signes de l'abandon de Dieu. Dieu abandonne-t-il parfois ses enfants? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Un autre prophète, le prophète Ésaïe, parle de cette question et il donne la réponse. Ésaïe 49, versets 14 à 16. Sion disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, c'est Dieu qui parle, « Moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Combien de fois ai-je pensé, avons-nous pensé, comme les Israélites dans ce texte, symbolisé par Sion, par Jérusalem, la ville de Dieu, représentant le peuple de Dieu, que Dieu nous avait abandonnés. Quand un être proche nous a quittés, quand nous avons perdu notre travail, quand notre santé a diminué, quand nous avons été mal jugés, quand nos projets ne se sont pas réalisés comme nous le souhaitions, combien de fois avons-nous pensé que Dieu nous avait abandonnés? Mais loin de nous avoir abandonnés, le Seigneur était proche de nous dans ces moments-là. À ce sujet, Charles Swindoll, qui a écrit un livre sur le prophète Élie que j'utilise dans mes préparations, dit ceci: « Lorsque nous passons par l'épreuve, nous avons tendance à nous sentir abandonnés, à être amers, à penser « Comment Dieu a-t-il pu me laisser tomber de cette façon ?» En fait, c'est le contraire qui est vrai, car à ce moment-là, il se penche sur nous plus que jamais. Nos ruisseaux à sec sont certes des temps difficiles, mais ce sont aussi des temps où Dieu continue à être à côté de nous, où il œuvre en nous, et en particulier pour nous préparer pour la suite. En fait, comme nous allons le redire dans un instant, il y a des leçons que nous ne pouvons pas apprendre ailleurs que quand nos ruisseaux sont à sec. J'aimerais encore souligner une chose avant de passer au dernier point. C'est qu'il faut que nous considérions ici dans notre texte le ruisseau à sec pour Élie comme la réponse à sa propre prière. En effet, l'assèchement du ruisseau, c'est un résultat direct de la sécheresse pour laquelle Élie a prié et que Dieu a exaucé. Et cela m'a fait penser à toutes ces choses que nous demandons à Dieu sans vouloir parfois forcément en payer le prix. Nous l'avons même chanté ce matin. Un chrétien plus aimant, je voudrais être. Seigneur, fais de moi quelqu'un de plus consacré, quelqu'un de plus aimant, quelqu'un de plus engagé. Quelle belle prière! Nous demandons cela au Seigneur, mais sommes-nous prêts pour y parvenir, à passer plus de temps dans la prière? Sommes-nous prêts à passer plus de temps dans la parole? Sommes-nous prêts à laisser tomber telle activité de loisir pour faire de la place à tel engagement pour le Seigneur? À abandonner telle mauvaise habitude pour grandir dans la sanctification? Nous sommes si souvent, et moi le premier, des êtres pleins d'ambiguïté. Nous voulons grandir dans la foi, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas toujours prêts à faire les renoncements nécessaires pour cela. Nous voulons grandir dans la foi, mais nous voulons aussi garder tous nos conforts. Certes, nous suivons le Seigneur et nous voulons continuer à le faire. Mais sommes-nous prêts à renoncer à nous-mêmes véritablement pour suivre le Seigneur et porter notre croix comme Jésus nous y invite? Je constate dans ma propre vie que l'assèchement de mes ruisseaux m'aide parfois à le faire. Dieu se sert parfois de l'assèchement de nos ruisseaux pour nous amener là. Et nous arrivons à notre quatrième et dernier point, intitulé « À l'école du torrent ». Et j'aimerais très brièvement juste souligner trois choses, trois leçons que je tire de ce que je viens de dire. Et la première que je voudrais souligner, c'est qu'au service du Seigneur, à sa suite, il n'y a pas que les temps d'action qui comptent. Il faut le dire, c'est important. On a une société qui valorise beaucoup le faire, n'est-ce pas? Au service du Seigneur, il n'y a pas que les temps d'action qui comptent. Ils comptent. Mais il n'y a pas que ça. Et on peut le dire autrement et dire qu'il y a un temps pour tout au service du Seigneur. Et j'entends par là un temps pour agir, mais aussi un temps pour s'arrêter et réfléchir avant d'agir et après avoir agi. Un temps pour avancer, certes, mais aussi un temps pour s'arrêter, pour méditer, pour prier. Et tous ces temps ont de la valeur. Pas seulement les temps où nous sommes dans l'action. Et nous avons sans doute trop tendance à ne valoriser que l'action. Alors que parfois, le temps de l'inaction, le temps de la mise en retrait, le temps même de l'arrêt forcé, le temps de l'épreuve, quelle qu'elle soit, est un temps dont Dieu veut se servir pour notre bien, pour nous faire progresser, pour nous former, pour nous faire comprendre une leçon que nous ne pouvons apprendre qu'à cet endroit-là, que dans l'isolement du torrent de Kérit qui s'est asséché. Oui, au service du Seigneur, il n'y a pas que les temps d'action qui comptent. Et il me semble qu'il est important pour nous de bien le comprendre, pour bien vivre ou pour mieux vivre ces temps exigeants et difficiles quand nos torrents s'assèchent. La deuxième leçon prolonge cette première, et je la formule ainsi, attention à ne pas court-circuiter certains temps de nos vies. Vous voyez le lien, il est évident. Et la tentation pour nous, pour moi, c'est de revenir très vite à l'action. Oui, parfois il faut s'arrêter, et puis tout de suite on veut revenir, on ne pense qu'à ça, parce que l'on pense qu'il n'y a que ça qui compte. Et nous voulons passer à l'étape suivante sans prendre le temps d'assimiler les leçons de l'étape présente. Et nous passons à côté d'un bien nécessaire que Dieu veut pour nous. Nous oublions que ces temps de mise à l'écart, quelles qu'elles soient, sont nécessaires et trouvent leur place dans la souveraineté de Dieu dans nos vies. Et nous oublions que c'est souvent dans ces temps-là que Dieu nous façonne et nous rend capables de faire ensuite ce qu'il a en réserve pour nous dans l'étape suivante. Attention à ne pas court-circuiter les temps d'inaction dans nos vies. Je ne parle pas de paresse ici, mais des temps qui s'inscrivent à la suite des temps d'action. Apprenons avec douceur et patience ce que Dieu veut nous apprendre dans ces moments-là. et souvenons-nous que de ces moments-là peuvent sortir de belles choses. Il y aurait 1000 exemples à donner ici, et celui que Charles Swindoll donne dans son texte m'a paru approprié. Il faisait le lien ici avec John Bunyan. Vous vous souvenez de John Bunyan, ce prédicateur qui, au XVIIe siècle, a été emprisonné à cause de sa foi. Et dans sa prison, dans cette mise en retrait, à l'écart forcé, il a écrit ce qui est devenu, je pense, la plus belle allégorie de la vie chrétienne. Vous le connaissez bien évidemment, le voyage du pèlerin. Une histoire, une allégorie qui a béni des générations entières et qui bénit encore aujourd'hui des milliers, des centaines de milliers de chrétiens dans le monde entier. Une bénédiction sortie d'un temps de mise à l'écart, d'un temps d'inaction. Qu'est-ce qu'on peut bien faire en prison? Mais Dieu a béni cela. Souvenons-nous que Dieu peut faire sortir de belles choses de ces moments qui nous paraissent inutiles. Est-ce que vous êtes dans un temps d'action pour le Seigneur en ce moment? Ben, si c'est le cas, que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse l'ouvrage de vos mains. Peut-être êtes-vous dans un temps de mise à l'écart. Peut-être même que votre torrent est complètement à sec ce matin. Si c'est le cas, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous accorde la patience nécessaire, le courage nécessaire, pour apprendre les leçons que vous devez apprendre et pour ensuite passer à autre chose. Et nous arrivons à la dernière leçon qui dit que les leçons du torrent, on l'a déjà évoqué, ne peuvent pas s'apprendre ailleurs. Ça serait facile si c'était le cas. Il y a des leçons que nous apprenons dans l'action et qu'on ne peut pas apprendre quand on ne fait rien. Et puis, il y en a d'autres que l'on apprend dans le silence, quand nous sommes à l'écart, quand nous sommes isolés, que nous apprenons en écoutant Dieu, en méditant sa parole, en priant, en repensant à des choses de notre vie, en lisant peut-être, en patientant, en nous arrêtant. Et tout cela, c'est souvent au torrent de Kérit que nous l'apprenons. Et c'est là très souvent que Dieu va nous travailler en profondeur pour que nous diminuions et que lui grandisse en nous, pour que notre orgueil, notre arrogance, notre impatience, notre chair diminue et que lui grandisse et que grandisse en nous plus de confiance en Dieu, plus de dépendance, plus d'espérance. Plus d'humilité. Qui sait ce que Élie a appris au bord du torrent de Kérit? Le texte ne le dit pas. Mais peut-être que quand nous allons voir la suite du récit, nous pourrons dire, ah, peut-être que ça, c'est une conséquence directe de ce temps-là. Ce que nous savons, c'est que pour Élie, le temps de formation n'est pas terminé. Il y a le torrent de Kérit, mais on n'est pas au bout des 3 ans et demi de sécheresse. Et il va y avoir le passage à Sarepta, avec beaucoup d'autres défis à relever, et puis aussi avec des actes miraculeux, impressionnants, importants, qui vont avoir lieu dans cette contrée hors des frontières d'Israël. Mais tout ça, ce n'est pas pour ce matin, ça sera pour la prochaine fois. Amen.